leur chant. Bonjour, hors champ, aujourd'hui avec Édouard Louis. Édouard Louis, vous êtes auteur de deux textes que vous avez signés. L'un s'intitule Eddy Bellegueule et l'autre Histoire de la violence. Et puis vous avez contribué aussi à des ouvrages collectifs sur Michel Foucault et sur Pierre Bourdieu. Pourquoi vous suiviez votre mère absolument partout dans la maison quand vous étiez petit?
J'étais comme terrifié quand elle partait. Je me sentais... absolument seul, mais ça c'était avant que la distance se crée entre elle et moi, avant qu'une sorte de distance sociale, une sorte de distance objective, en dépit de nous, se produise, qui est cette distance que je décris dans les livres que vous venez d'évoquer, Histoire de la violence et En finir avec Eddy Bellegueule.
Oui, mais justement, quand on relit ce livre, pour en finir avec Eddy Bellegueule, et qu'on voit les différents niveaux de strates d'écriture, on s'aperçoit qu'il y avait peut-être, à l'intérieur de vous, quand vous étiez enfant, plusieurs couches géologiques, comme si vous étiez une caisse enregistreuse du réel que vous aviez à vivre.
Oui, c'est-à-dire que...
Ou alors, c'est venu beaucoup plus tard par l'alchimie de l'écriture.
C'est-à-dire que l'enfant que j'étais était à la croisée de plusieurs possibilités, de plusieurs possibilités d'être, de plusieurs désirs. Et En finir avec Eddy Bellegueule revient avec cette sorte de schizophrénie de l'enfant que j'étais, qui à la fois, comme tout enfant, voulait plaire à ses parents, voulait que ses parents soient fiers de lui, et puis qui à la fois échouait en permanence, parce que l'enfant que j'étais était un enfant qui... Oui, qui avait anéanti tous les rêves de ses parents. Mes parents voulaient un vrai garçon, un vrai dur, quelqu'un qui...
Mais vous êtes un vrai garçon.
pas pour...
Et sans doute un vrai dur là. Aussi.
Pas à ce moment-là, c'était pas comme ça que j'étais perçu dans le...
Pourquoi? Parce que vous étiez trop maigre?
Parce que j'étais maigre, parce que j'étais efféminé, parce que j'étais perçu comme différent. En fait, c'est ça l'enjeu de En finir avec Eddy Bellegueule. C'est que Eddy Bellegueule, l'enfant que j'étais, était un enfant... qui se sentait pas différent. Je n'ai pas fui du milieu de mon enfance parce que je me sentais différent, mais parce que les autres me disaient « tu es différent, tu es efféminé, tu n'es pas comme nous ». J'ai voulu un peu aussi, dans ce premier roman, inverser la manière un peu classique de raconter les récits de fuite. Vous savez, tous ces récits d'enfants qui s'arrachent à une famille, qui s'arrachent à un milieu. On a souvent l'impression dans ces livres que la personne qui a fui sa famille, qui a fui le monde de son enfance, est une personne qui est née différente, qui a toujours été différente et qui est comme née avec le besoin de partir, de s'en aller, vous voyez. On retrouve cette idée dans les romans de James Baldwin, même dans l'autobiographie de Pierre Bourdieu, qui a grandi dans un milieu très populaire, ensuite qui est devenu l'homme qu'on a connu, l'homme qu'on connaît. Et d'en finir avec Eddy Bellegueule, au contraire, on dit à Eddy, tu es différent, tu es un PD, tu es efféminé. Et Eddy, lui, ne se sent pas différent. Et toute l'histoire du livre est une lutte pour ne pas être différent, une lutte pour ne pas fuir, une lutte pour ne pas partir. C'est un peu l'inverse du mythe populaire de Billy Elliot, si vous voulez. C'est un enfant qui non pas lutte pour accomplir une différence, mais qui lutte pour ne surtout pas être différent, parce que lui, il rêve d'être... comme ce que ses parents rêveraient qu'il soit. Il rêve d'être comme tout le monde. C'est une lutte pour la banalité, pour la normalité, parce que la différence est trop dure. Et c'est pour ça que, voilà, quand vous dites Eddy était peut-être autre chose que ce qu'on disait de lui, oui, très probablement, en fait. La différence n'était pas première, la différence est advenue dans les mots des autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Eddy Bellegueule est parti, que je suis parti, que j'ai fui. Mais cette différence n'était pas première, oui. Dans l'ordre du temps.
Madame Bovary, c'est vous?
Eddy Bellegueule, c'était moi. Madame Bovary, c'est... Oui, Madame Bovary, c'est... C'est quelqu'un qui essaye de fuir aussi. C'est un peu l'inverse d'histoire de la violence, je dirais, parce que si on finit avec Eddie Bellegueule, décrit une fuite à un moment donné rendue nécessaire justement par cette différence qui pèse sur les épaules d'Eddie Bellegueule. Histoire de la violence est le récit de l'impossibilité de la fuite, de l'impossibilité de partir, vous voyez. Le livre revient sur un huis clos où je suis dans ma chambre, dans le petit appartement dans lequel je vivais, place de la République, avec un garçon qui est très très violent, qui sort un revolver, qui me menace de me tuer, qui m'étrangle, qui me bouscule, qui m'insulte. Et moi, je suis face à lui, et jamais je n'arrive à fuir, jamais je n'arrive à partir.
C'est depuis l'enfance, parce que quand on relit, pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'est ce que vous reprochez votre mère en permanence.
Oui, c'est vrai, en même temps. C'était la première phase d'en finir avec Eddie Bellegueule, mais en finir avec Eddie Bellegueule se termine tout de même par un désir de fuite qui naît, alors que dans l'histoire de la violence, jamais ce garçon est face à moi. Et moi, j'essaye de le calmer. Je lui dis, calme-toi, je t'en supplie, arrête. Et j'essaye de régler la situation à l'intérieur de la situation.
Mais si vous le dites d'une voix aussi caressante que maintenant, évidemment, il vous a pas cru.
Non, il faut croire qu'il ne m'a pas cru, mais oui, c'est une question du livre d'histoire de la violence. Pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de régler une situation à l'intérieur d'elle-même plutôt que de fuir cette situation? Dans le livre, je parle de Sanctuaire, le roman de William Faulkner, où cette femme, Temple Drake, est dans une maison entourée avec des hommes très violents qui l'insultent, qui la menacent, des hommes qui ont beaucoup bu, qui sont des petits trafiquants de whisky. Et Faulkner décrit que la fuite de Temple serait possible. À un moment donné du livre, dans Sanctuaire, Temple s'enfuit de cette maison où elle est entourée de ces hommes très violents, très menaçants, et puis finalement elle revient. Et dans cette maison, comme si elle n'arrivait pas à s'arracher à la situation, comme si elle voulait toujours régler la situation de l'intérieur. Jean-Luc Lagarce disait d'une manière très différente, celui qui n'a pas quitté son pays à 30 ans ne le quittera jamais. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à fuir? Pourquoi est-ce que dans l'histoire de la violence, dans le huis clos qui constitue ce livre, face à ce garçon qui me dit « je vais te tuer », je ne pars jamais et je n'arrive jamais à partir comme Temple, comme le personnage de Faulkner. Alors que dans Eddie Bellegueule, quand on me disait « tu es différent », même si moi je ne me sentais pas différent, à un moment donné, cette fuite est devenue une telle nécessité qu'elle en est devenue une volonté. Alors que dans Histoire de la violence, jamais. Et je crois que c'est quelque chose qu'on traverse beaucoup dans nos vies, cette impossibilité de partir, cette impossibilité de s'arracher à quelque chose, comme si la violence de la situation devenait la violence première, je dis dans l'histoire de la violence, comme si la violence géographique était la première des violences, celle qui nous retenait là où on est. Et oui, c'est difficile de fuir.
Quand Lagarce parle de ce pays, si on ne le quitte pas à 30 ans, on ne pourra plus jamais le quitter, il ne parle pas du pays, la France, il parle de son propre pays, de son propre ancrage géographique, des lumières du réel qui nous environne quand on est enfant, puis adolescent, etc. Et c'est exactement la démarche que vous avez pour en finir avec Eddie Bellegueule. Le territoire, le pays, c'est celui-là.
Oui, exactement. C'est le pays au sens poétique et politique, c'est-à-dire un milieu, un village, une classe sociale, un monde qui nous forme, en fait, un monde dans lequel on est constitué comme ce qu'on est. Et c'est évidemment ce à quoi Lagarce fait référence, ce qui est le pays de la sœur Clara qui raconte l'histoire du huis clos avec Reda, avec ce garçon violent dont je parlais. Elle décrit, quand elle raconte l'histoire de cette nuit, quand elle parle de ce huis clos, qu'elle le restitue, elle en profite aussi pour parler de sa vie dans le village dans lequel elle a grandi avec moi, dans ce petit village du nord de la France, très ouvrier, très populaire, le même que je décrivais dans « Finir avec Eddie Bellegueule ». Et puis elle décrit une vie très dure, faite de misère, faite d'ennui. Et puis, elle ne peut pas partir. Elle dit qu'elle ne part pas. Elle dit qu'elle n'est jamais partie, en dépit de cette misère et de cet ennui. Et c'est ça, le pays. C'est ce monde qu'elle et moi avons partagé.
Alors, on reviendra sur ce que vous nous dites, en tant qu'écrivain, de votre propre vie et des enjeux que cela suscite, de la passion que cela provoque et des polémiques qui s'accompagnent de ces deux textes. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de la forme. Car quand on relit, effectivement, pour en finir avec Eddie Bellegueule, on se dit qu'il y a une construction du réel qui est très sophistiquée et qui apparaît encore plus en pleine lumière dans Histoire de la violence. Comment s'est organisé le réel? Est-ce que vous l'avez emmagasiné dans une sorte d'arrière-mémoire quand vous le viviez? Et à quel moment s'est déclenchée l'écriture? Et à quelles règles vous êtes-vous assujetti pour pouvoir construire? C'est peut-être pour ça que vous dites roman.
Mmh, exactement, parce que pour moi le terme roman est un terme auquel je tiens beaucoup. Souvent on me demande pourquoi tu dis que tu écris des romans alors que tu dis que tes livres sont autobiographiques. Et ce que je réponds, c'est que pour moi le roman signifie la construction, et la construction ne veut pas forcément dire la fiction. La construction veut dire aussi la vérité, vous voyez. Pour approcher la vérité, il faut construire quelque chose, il faut construire un discours, il faut... Si on prend le modèle de Pierre Bourdieu dont on parlait tout à l'heure, Pierre Bourdieu construit des tableaux du monde social, il construit des graphiques qui nous permettent de voir le monde mieux que si simplement on se posait dans la rue et qu'on regardait les gens passer. Et donc la littérature, c'est en effet pour moi le roman, c'est cette possibilité d'une construction qui s'approcherait de la vérité. Et tout dans Histoire de la violence, dans les paragraphes, dans la ponctuation, dans l'enchevêtrement des langues, vise à se rapprocher de la vérité. J'utilise la littérature comme une arme de vérité. C'est comme ça que je la conçois. Et pour l'écriture d'Eddie Bellegueule ou d'Histoire de la violence, la construction littéraire est très longue, elle prend beaucoup de temps, parce que très souvent, les expériences que nous vivons, les expériences qu'on vit, on n'en éprouve que la surface, si vous voulez. On n'éprouve pas la totalité de ce qu'on vit. Et pour moi, la littérature est une manière de retrouver autre chose que cette surface. Et par exemple, quand... Ce que je disais quand j'ai publié En finir avec Eddie Bellegueule, c'est que quand Eddie pleure à l'école parce qu'on lui dit sale pédé ou sale pédale, il pense que ses larmes sont dues à sa fragilité personnelle ou à la méchanceté des deux garçons qui sont face à lui et qui l'insultent. Or pour moi, l'écriture m'a permis de voir que ses larmes étaient plus vieilles qu'Eddie Bellegueule, qu'elles étaient permises par toute une histoire de l'homophobie, par toute une histoire du rejet, une histoire de l'exclusion. C'est aussi parce que Eddie Bellegueule est dans ce milieu social-là que cette injure est rendue possible de cette façon-là. Et tout se passait comme si écrire, comme si la construction me permettait de voir que oui, que ces larmes n'étaient pas seulement personnelles, mais que ces larmes étaient politiques, que ces larmes étaient, oui, plus vieilles qu'Eddie Bellegueule. Et de retrouver la vérité d'une situation avant la situation, en dehors de la situation, tout ce qu'on ne voit pas au moment où on l'éprouve, c'est ça que j'essaie de faire quand j'écris.
Alors vous évoquez Pierre Bourdieu, sur lequel vous avez travaillé et publié. Pierre Bourdieu a passé sa vie à enregistrer les vies des autres, à en faire, comme vous dites, des tableaux, des graphiques, des récits, comme Toute la misère du monde, etc. Et vous, Édouard Louis, vous prenez votre propre vie. Est-ce que pour autant, dans la manière de prendre l'écriture comme passage, transcription d'un écho de votre propre vie, il y a objectivation de votre propre vie?
J'essaye de le faire le plus possible, oui. Ce qui donne par exemple cette construction formelle assez particulière d'Histoire de la violence, puisque je reviens, comme on le disait avant, sur une nuit de violence, sur un basculement. Je rencontre un garçon dans la rue, il me propose de rentrer chez moi. Il y a presque une passion qui naît entre lui et moi. Et puis, à un moment donné de la nuit, un basculement se produit. Il essaye de me tuer, il me menace. Donc le livre est l'histoire de ce basculement, d'une histoire qui s'est déroulée en décembre 2012. Or, dans la construction littéraire du livre, cette histoire est racontée par ma sœur, cette histoire est racontée par quelqu'un d'autre que moi. Et donc je retourne chez ma sœur, dans le petit village du Nord où j'ai grandi avec elle, après des mois de séparation. Je suis dans sa chambre et je l'entends derrière la porte raconter ma propre histoire à son mari. Et donc, dans le fait d'écrire une histoire que j'ai vécue et qui est racontée par quelqu'un d'autre, j'utilise justement la construction littéraire pour essayer d'objectiver quelque chose que moi j'ai vécu, d'essayer de prendre une distance avec ce que j'ai moi-même vécu et voir au-delà de moi ce qui est arrivé cette nuit-là.
Et vous prenez-vous pour un insecte dans cette opération de dissection?
pour un insecte, en tout cas pour un...
pour un autre que vous-même.
Oui, et ou même en tant que moi, comme un personnage. C'est ça que je voulais montrer aussi à travers la forme qu'a pris Histoire de la violence. C'était que dans cette rencontre avec Reda, j'étais un personnage tout autant que lui. Que j'étais porté moi aussi par une histoire, que je portais avec moi une histoire, un passé que je maîtrisais pas. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire le livre, je racontais le huis clos de cette nuit-là, et puis je parlais de son histoire à lui, à Reda, de l'histoire de l'arrivée de son père en France, l'histoire des scènes de son enfance que lui m'avait racontées la nuit du 24 décembre 2012 quand je l'ai rencontré. Et puis très vite, je me suis dit que je pouvais pas faire comme si lui était un être socialement déterminé, historiquement déterminé, et comme si moi j'étais une sorte de sujet sans passé, sans histoire, qui se promenait comme ça au hasard dans la rue et qui l'avait rencontré. Et donc j'ai voulu, comme ça, à travers l'écriture du livre, quand ma sœur raconte l'histoire et qu'elle parle de moi, de mon enfance, de mon passé, montrer que moi aussi j'avais un passé qui me dépassait, et que l'histoire de la rencontre avec Reda était l'histoire de deux histoires violentes qui se percutent, qui se télescopent.
Nous allons écouter la voix de Claude Simon, c'était au micro de Francine Mallet. Il va évoquer sa façon d'écrire, le rôle de la mémoire sur l'écriture. Il ne s'agit pas, nous dit-il, de recréer le passé. C'était dans Entretien avec France Culture, 17 mai 1971, la voix de Claude Simon.
Non, je prends pas de notes parce que j'en prends quelquefois, mais très très peu, c'est exact. Puis je pense, Proust l'a dit, vous savez, que la seule mémoire valable, c'est ce qu'il appelle la mémoire involontaire, parce que la mémoire fait un tri et ne garde que l'essentiel. Proust, quelle expression exacte, il dit « Le souvenir involontaire nous rapporte les choses dans un dosage exact de mémoire et d'oubli. » C'est le terme qu'il emploie. Et je crois que c'est important ça, nous faisant goûter la même sensation dans une circonstance tout autre. Par conséquent, il la libère de toute contingence et il nous en donne l'essence extratemporelle. Je crois que c'est assez important, ça. Et puis, il ne s'agit pas, pour un romancier, enfin du moins pour moi, et je crois pour personne, de recréer le passé, mais de produire quelque chose. Moi, je m'aperçois de plus en plus de ça, encore dans le vent, n'est-ce pas? Je pensais qu'écrire un roman... C'était imaginer comme ça une histoire, comme on m'avait appris dans les narrations au collège, et puis qu'ensuite on l'écrivait avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite. Alors je me suis aperçu de quelque chose, c'est qu'une fois que j'avais fini d'écrire des bouquins comme ça, que j'avais soigneusement imaginé à l'avance, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. C'était autre chose qui s'était fait. Et au contraire de... Combien on entend les gens dire « Ah, si je pouvais faire ce que je voudrais faire, mais les mots me trahissent, ou etc. » Ben, moi, c'était le contraire. Ce qui s'était fait, c'était beaucoup mieux que ce que j'avais voulu faire.
Les mots ne vous trahissent pas, vous?
Non, au contraire, ils m'apportent tout. N'est-ce pas? L'écriture, l'exercice de l'écriture, l'acte d'écrire m'apporte tout. Alors, ça me trahit, si vous voulez, en sens que, à la fin, il sort pas du tout ce que j'avais voulu faire, mais si je regarde mes premiers projets, si je comparais à ce moment-là mes premiers projets avec ce qui s'était fait, je n'ose même pas dire ce que j'avais fait, ce qui s'était fait, bien entendu, avec mon travail, c'était beaucoup mieux. Alors, à la fin, ma foi, j'ai fini par me dire, c'est plus la peine de vouloir faire quelque chose, puisque ce qui se fait, c'est mieux. Alors, écrivons, je vais écrire pour, et c'est comme ça que j'écris maintenant, pour voir ce qui va se faire.
Alors, beaucoup de choses dans cette archive. Hein, mémoire involontaire, y souscrivez-vous. Et d'autre part, est-ce que l'écriture libère une plage inconnue de soi qu'on découvre quand ça s'écrit? Et puis d'autre part, est-ce que c'est la peine d'avoir des idées pour pouvoir écrire ou est-ce qu'il faut se débarrasser de toutes ces idées-là pour pouvoir justement en écrire?
Oui, c'est vrai que quand on écrit, on sait, je suis d'accord avec Claude Simon, on ne sait jamais encore véritablement ce qu'on va écrire, sinon ça ne sert à rien d'écrire, ce n'est pas très intéressant. Et j'aime bien cette idée selon laquelle, oui, l'écriture va permettre de découvrir un certain nombre de vérités, de réalités qu'on n'a même pas vécues. C'est même pas aller rechercher le réel, parce que c'est des choses que dans la mesure où elles n'ont pas été ressenties, n'ont pas été véritablement vécues, vous voyez. Comme j'écris souvent des... Enfin, avec Histoire de la violence ou En finir avec Eddie Balgol, j'écris des histoires assez dures, assez violentes. Et on me demande souvent, est-ce que quand tu écris, c'est... ce que tu fais, c'est de la... comme une sorte de catharsis ou une sorte de thérapie, vous voyez. Et en fait, quand j'écris, c'est le... c'est le contraire que je fais. J'essaie de rechercher, en l'occurrence, une souffrance qui n'a pas été forcément vécue au moment où elle, ou au moment où elle existait.
Il y a donc tellement... les mots sont plus vrais que la vérité ressentie.
En tout cas, les mots peuvent aller permettre de rechercher des vécus non ressentis, oui. Et par exemple, sur ce thème de la violence, ce que je crois, c'est que dans la vie, il y a tellement de violence dont on ne souffre pas, vous voyez, dont on finit par ne plus souffrir. Il y a cette sœur Clara dans Histoire de la violence qui raconte l'histoire du huis clos. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a un travail très dur. Elle raconte comment elle est toujours en conflit avec les garçons dans le village qui embêtent les filles qui se liguent contre les garçons, tout ça. Elle a une vie vraiment assez harassante. Et elle n'arrête pas de dire en même temps « mais je n'ai pas à me plaindre, mais ma vie pourrait être pire ». Comme si la violence s'abattait et les difficultés s'abattaient sur elle de manière tellement systématique qu'à force, la violence finissait par paraître évidente.
Oui, bon. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle peut l'énoncer, que comme elle peut trouver des mots pour dire cette violence, on a l'impression, nous lecteurs, quand on vous lit Édouard Louis, que puisqu'elle a trouvé les mots pour le dire, une partie de cette violence s'est échappée d'elle.
Bien sûr, quand on écrit, on essaye, en tout cas moi oui, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver les mots pour dire cette violence qu'on finit parfois par ne plus dire, parce que elle apparaît comme évidente à force de se reproduire, elle apparaît avec l'évidence du toujours ainsi, et c'est pour ça que ce que je fais, ma démarche littéraire, est pas thérapeutique, c'est parce que je vais rechercher cette violence pour la dire, et ensuite bien sûr il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation là-dedans, dans le fait de dire la violence. Vous avez raison, on s'en échappe à un moment donné. On s'en échappe d'une certaine façon, en tout cas. Moi, je crois que dans l'histoire, les grandes paroles sur la violence ont souvent été les paroles les plus émancipatrices, beaucoup plus que les paroles sur la liberté, sur une sorte de liberté fantasmée, où c'est le marxisme qui dit aux classes populaires « vous êtes opprimés, soulevez-vous », c'est le féminisme, c'est Violette Le Duc, c'est Simone de Beauvoir qui dit aux femmes « vous vivez dans des situations dominées, vous êtes oppressées, soulevez-vous, révoltez-vous ». Et c'est vrai qu'il y a un lien intime entre l'énoncé de la violence et la possibilité de l'émancipation. Donc vous avez raison, ce sont les deux. Et faire l'histoire de la violence, écrire avec des mots l'histoire de la violence, c'est la défaire. Et on peut pas, c'est vrai, faire l'histoire d'une violence, on peut pas défaire une violence sans en faire l'histoire avant, sans la dire, comme le féminisme ou le marxisme.
L'écriture est-elle pour vous un acte de remémoration? Je pense notamment à ce passage dans « Pour en finir avec Eddie Balgol », où le narrateur se remémore cette période de l'enfance où il faisait vraiment corps avec sa mère et où il essayait d'être comme tous les autres garçons du village en faisant les mêmes bêtises, etc. Et on a l'impression une sorte de boule d'indistinction par rapport au monde. Et ça, vous le racontez très bien. Donc, est-ce que vous l'avez perçu quand vous l'avez vécu? Ou est-ce que c'est l'écriture qui vous a permis de remonter très loin dans une sorte d'acte de phénoménologie?
Oui, c'est l'écriture qui m'a permis de voir ça, de comprendre ce passé, de comprendre cette enfance. C'est comme si l'écriture m'avait fait me rendre compte que ma vie avait été beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que tout ce que j'avais imaginé. Comme si j'étais beaucoup plus vieux que ce que je croyais, et que ça, c'était l'écriture qui me permettait de le voir. Que je, en termes d'expérience vécue, de capital, de moments, l'écriture nous permet de nous rendre compte, oui, qu'on a une vie beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer, en général. Ce qui veut pouvoir dire aussi en termes de violence, aussi, en termes de, pas forcément de belles choses ou d'événements, vous voyez.
Votre mère vous disait sans arrêt, et peut-être elle vous le dit encore aujourd'hui, que vous êtes quelqu'un de lent.
De lent? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je sais pas. Moi, au contraire, je vis avec un sentiment d'urgence plutôt. Je me sens toujours en retard. J'ai l'impression qu'il faut toujours se dépêcher, qu'il faut se presser, qu'à un moment donné, j'aurai plus le temps. C'est pour ça que j'ai voulu publier mon premier roman à 21 ans. Je me suis dit, dépêche-toi, il y a une urgence à écrire, il y a une urgence à exister et il faut le faire tout de suite. J'ai ressenti la même chose quand j'ai découvert la littérature, quand j'ai découvert les livres. Je me rendais compte que j'avais beaucoup moins lu que les gens qui étaient autour de moi et qu'il fallait que je me dépêche, que j'aille le plus vite possible pour rattraper cet écart, pour rattraper ce retard. Et à ce moment-là, je pouvais lire 10, 15 heures par jour, le plus possible, parce que je me disais, tu es en retard. Et je crois pas que la lenteur soit une chose qui me caractérise particulièrement. Mais je suis pas sûr que le discours de ma mère sur moi était forcément juste. Oui, c'est un des enjeux d'histoire de la violence aussi, le fait que le langage des autres correspond jamais véritablement à ce qu'on est, vous voyez. Quand j'ai publié En finir avec Eddie Bellegueule, j'ai beaucoup dit que c'était un livre sur le langage et comment les mots des autres constituent notre identité, notamment par exemple à travers l'insulte. Tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'un sale pédé, tu n'es qu'un sale noir, et comment ces mots nous emprisonnaient dans une identité et comment la souffrance naissait de cet emprisonnement. Dans l'histoire de la violence, il se passe autre chose puisque c'est ma sœur Clara qui raconte ce que j'ai vécu. Et au contraire, ces mots ne forment jamais mon identité, ces mots ne forment jamais ce que je suis, mais au contraire, il y a toujours un écart entre ce qu'elle dit que je suis et ce que je suis effectivement. Il y a toujours un écart entre ce qu'elle dit que j'ai vécu et ce que j'ai vécu effectivement, vous voyez ?
Elle aussi, elle trouve que vous êtes un peu lent et que vous réagissez pas assez vite et que vous comprenez pas assez vite les situations.
Oui, elle dit que c'est vrai, que je ne pars pas justement, ce qu'on disait au début de l'émission, que je ne pars pas face à Reda. Et en même temps, elle dit que je suis obsédé par le temps. Je peux pas passer une heure sans regarder 5 ou 6 fois l'heure pour voir l'heure qu'il est.
Mais là, vous avez pas regardé encore.
Vous en faites pas.
Pourtant, vous êtes dos à l'horloge du studio.
Là, on est dans un contexte un peu particulier, mais c'est vrai que si je ne sais pas l'heure qu'il est, si je ne sais pas le moment auquel je suis, le moment auquel je suis en train d'exister, je me sens comme perdu dans le temps, je me sens comme terrifié par le temps.
Ce que vous racontez dans l'histoire de la violence, ça a été vécu en décembre 2012. Nous sommes en 2016. Vous avez déjà en tête le troisième livre ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. On parlait de l'urgence tout à l'heure, d'urgence à dire des choses. C'est comme ça qu'est né le projet d'histoire de la violence aussi, dans ce sentiment d'urgence. Après avoir vécu cette nuit, c'est comme si toute la violence du monde s'était rappelée à moi, toute la violence du monde s'était rappelée dans ma chair. Et je me suis dit, il y a une urgence à dire toute la violence du monde. Il faut la dire, il faut se dépêcher. Je trouve qu'on la dit tellement peu. Si on voit toute la violence du monde qui nous entoure, les migrants qui se noient dans la Méditerranée, les scores du Front National, les policiers qui tirent sur les Noirs aux États-Unis, on a l'impression que il y a une violence permanente autour de nous et que paradoxalement cette violence est assez peu représentée en littérature. Et donc pour moi, écrire, c'est combler cet écart et il faut encore le combler. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que je pense déjà au troisième roman.
Merci beaucoup, Édouard Louis. Je rappelle que vous avez déjà publié 4 livres, dont 2 romans. Donc, Histoire de la violence est le dernier. Et pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'était le premier. Ils sont tous les deux publiés aux éditions du Seuil. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.